Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. That's what we do here. That's who we are. That's how we will win. That's the America.
Culture 19h01, on écoute à l'instant Hillary Clinton. Bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques, en direct jusqu'à 20h depuis le premier studio au 8e étage de la maison de la radio. Les primaires américaines donc, pour l'élection présidentielle de novembre prochain, elles entrent dans leur phase décisive avec 5 primaires majeures ce mardi en Floride, dans l'Illinois, dans le Missouri, la Caroline du Nord et l'Ohio. Des primaires très clivantes et maintenant assez violentes également, qui se déroulent notamment sur les médias sociaux, le sujet principal de cette émission ce soir. Alors nous serons en direct de Floride avec le correspondant permanent de Radio France, Frédéric Carbone. Nous serons à New York avec Ken Oletta, grand reporter média du New Yorker, en direct de Boston avec l'intellectuel et traducteur Arthur Goldamer. Nous serons dans le Maryland avec Alfred Six, un républicain qui fut un important collaborateur de Ronald Reagan et de George Bush. Nous serons aussi, pour notre alphabet numérique ce soir, avec Joe Trippi et Joe Rospar, deux des principaux artisans des campagnes numériques démocrates. Enfin, avec Patrick Raffuni, l'un des artisans des campagnes numériques républicaines. En studio, à mes côtés ce soir, Marjorie Paillon de France 24, qui a couvert aux États-Unis les deux précédentes campagnes présidentielles et qui a même publié un ouvrage sur John McCain, le survivant en 2008. Bonsoir Marjorie.
Il a survécu, moi pas. Bonsoir Frédéric.
Voilà, retour à vos précédentes amours. Lundi 21 et mardi 22 mars, Barack Obama devrait se rendre, si tout va bien, à La Havane pour un voyage historique à Cuba. Nous y étions aux côtés des dissidents cubains qui préparent eux aussi à leur façon la visite d'Obama à Cuba. Et nous étions aussi à Miami avec les Cubains américains de Floride. Regard croisé sur Cuba, un reportage pour Soft Power en début de cette émission. On écoutera également au cours de Soft Power ce soir des vidéos de campagne d'Hillary Clinton et de Donald Trump, ainsi que Kygo dans un remix de Marvin Gaye. Tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Le reportage qui va suivre a été enregistré la semaine dernière à Cuba, à La Havane, ainsi qu'à Miami aux États-Unis. Des deux côtés de la mer des Caraïbes, à quelques kilomètres à peine de distance, les Cubains de Cuba et les Cubains américains de Miami se préparent à une visite décisive, celle que Barack Obama doit effectuer à La Havane les 21 et 22 mars prochains. À La Havane, un groupe d'une cinquantaine de dissidents anticastristes sont réunis pour la projection du film Selma, occasion de parler des droits de l'homme et de Barack Obama. En Floride, au même moment, au siège de WPLG, la principale chaîne de télévision locale, les journalistes préparent, eux, leur voyage à Cuba pour accompagner le président Obama. Tous savent qu'ils vont vivre un moment historique. Regard croisé sur Cuba, un reportage de Soft Power pour France Culture.
Whether Jimmy Lee Jackson or James Reed.
Nous sommes à La Havane, dans la villa d'un des principaux dissidents cubains, Antonio Rodiles. Ce soir, il a organisé une rencontre autour de la projection du film Selma, qui raconte l'histoire des marches pour les droits civiques aux États-Unis et la mobilisation antiraciste de Martin Luther King. Une quarantaine de dissidents cubains sont là. Chaque dimanche, ils marchent, défilent eux aussi pour les droits de l'homme à Cuba et sont arrêtés, parfois frappés et battus. Assistent à la projection les Damas des Blancas, qui sont à l'origine de ces marches, mais aussi des écrivains, des artistes, dissidents, sous le regard des caméras de surveillance de la police cubaine, qui contrôle tous leurs faits et gestes. Le film s'achève, le débat commence.
Je voudrais vous dire quelque chose. Ce film est fantastique. Hein. C'est un lien direct avec ce que nous faisons. C'est totalement incroyable ce qu'il dit. Beaucoup de choses qui sont semblables à ce que nous disons nous, quand les gens marchent, qu'ils voient les autres en face, qu'ils se regardent. On voit comme l'histoire se répète. Et je veux dire quelque chose, je viens de recevoir un appel. La visite de John Kerry est annulée. Elle est annulée. Il semble qu'il y aurait des problèmes parce que le régime ne veut pas que le président Obama rencontre les dissidents. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.
Antonio Rodiles.
Tous les gens que vous voyez ici sont des gens qui sont dans cette campagne de marche pacifique. Et nous nous rencontrons tous les dimanches et nous essayons donc de mener cette marche pacifique. On nous arrête et il y a des gens d'ailleurs ici dans cette salle qui ont été arrêtés hier parce qu'ils se sont rendus devant les prisons pour demander la libération de certaines personnes qui sont encore en prison.
Berta Soler est la porte-parole des Damas de Blanca, ces femmes qui chaque dimanche, à la sortie de l'église, manifestent à La Havane pour demander la libération des prisonniers politiques, leurs maris, leurs fils, leurs frères. Elle vient de voir, elle aussi, le film Selma, et elle réagit.
À travers ce film de Martin Luther King, on peut voir que c'est une preuve supplémentaire que cette marche, nous, Cubains, que nous réalisons depuis maintenant 43 dimanches dans la rue, est un droit. Et ce n'est pas une demande, mais c'est quelque chose que nous exigeons au gouvernement. Nous exigeons une amnistie générale des dissidents politiques et aussi que l'on respecte les droits de l'homme. Et cette marche dans la ville de Selma, lancée par Martin Luther King, et qui a réuni et mobilisé de nombreux citoyens nord-américains, des Noirs et des Blancs, sans faire aucune différence, qui étaient là pour protester de manière pacifique, pour l'égalité, pour mettre un terme au racisme et en finir avec la discrimination raciale, je crois que c'est la preuve que l'union fait la force et que nous avons le droit d'exiger, de faire valoir nos exigences, et ceci dans l'espace public. Et pour nous, c'est vraiment une leçon à prendre. Nous devons continuer avec cette marche pacifique dans cet espace qui appartient à tous et nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons avoir.
Les dissidents sont réunis pour discuter et préparer la visite d'Obama qui aura lieu ici à La Havane les 21 et 22 mars. Antonio Rodiles.
Obama a raison, mais toute l'idée est de savoir si, au final, cette visite sera en faveur du peuple cubain ou du régime. Pour l'instant, tout ce que l'on voit est en faveur du régime. Si vraiment vous voulez voir les choses changer, si nous voulons qu'il y ait une nouvelle direction qui soit prise, qu'il décide clairement ce qu'il veut faire. Mais pour l'instant, il nous est difficile d'entrevoir qu'il y ait une différence, en fait, et que l'on apporte un souffle nouveau au peuple cubain.
On assiste à une sorte de nettoyage des sans domicile fixe, des alcooliques, des dissidents, pour éviter que tous ces gens-là perturbent la visite. Vous avez ce sentiment ?
I don't have the feeling. I have the facts.
Mais c'est une réalité. Hier, comme je vous le disais, nous avons été arrêtés. Et au commissariat, nous avons pu voir qu'ils arrêtent également des SDF, des alcooliques, des vendeurs ambulants et également des dissidents. C'est leur manœuvre et ils vont continuer avec cette même façon d'agir et façon d'agir qu'ils ont appliquée maintes et maintes fois. Et c'est toujours la même chose. Lorsque l'on reçoit une personnalité importante dans notre pays, ils ne veulent pas, en tout cas, ils ne veulent pas que la presse étrangère soit témoin de la situation désastreuse et qu'ils puissent voir des pauvres, des SDF ou ceux qui sont en très mauvais état.
France Culture, 19h10. Nous étions à La Havane. Eh bien, nous partons maintenant pour Miami. Miami, où une série de partisans, de militants, également intéressés par Cuba, se réunissent. Nous sommes maintenant aux États-Unis, à quelques dizaines de kilomètres de La Havane, à Little Havana, le quartier cubain de Miami. Le débat aussi, ici, porte sur la visite de Barack Obama à Cuba. Nous sommes au siège de WPLG, la principale chaîne de télévision de Floride, particulièrement suivie par les Cubains américains qui forment la majorité de la population ici, dans la Floride du Sud. C'est l'antenne locale du network ABC. Le journaliste Calvin Hughes est l'un des présentateurs vedettes de la chaîne et il sera à Cuba avec Barack Obama. Il prépare le voyage.
Alors, l'idée, c'est que nous arrivons le 17. Et le 17, nous espérons pouvoir réaliser des reportages qui montrent comment Cuba se prépare, comment la ville est nettoyée, comment les dissidents sont pourchassés, arrêtés, tous les mouvements policiers pour écarter les gens, nettoyer les quartiers, pour que tout est un aspect reluisant. C'est notre objectif, en fait, montrer ce nettoyage qui est réalisé et montrer la vie de ces gens qui sont là et voir comment tout va changer à travers cette venue du président, qui est la première visite depuis presque 9 décennies. Nous diffuserons en direct pratiquement 24 heures sur 24, à partir du moment de l'atterrissage de l'avion du président Air Force One jusqu'à la visite, rencontre avec Raúl Castro. On va pratiquement montrer tous ces mouvements et tout ce qui sera public, nous le montrerons.
Bert Medina, d'origine cubaine, est le président de Local 10 WPLG.
Des années, la communauté cubaine aux États-Unis a voté républicain, seulement républicain. Avec Barack Obama en 2008, la communauté a voté à hauteur de 60% pour lui. Et c'est quelque chose qui est un véritable mouvement et continue. Et si, par exemple, Hillary Clinton devient la candidate démocrate pour les élections présidentielles, eh bien, la majorité des Cubains américains voteront pour elle. C'est vrai que ce n'est pas l'ensemble des Cubains américains qui sont démocrates. Nombreux sont républicains, extrêmement conservateurs, ne veulent pas qu'il y ait une normalisation des relations avec Cuba. Ils veulent que les choses ne bougent pas jusqu'au décès de Raúl et Fidel Castro. Mais les jeunes Cubains américains ne sentent pas les choses de cette façon. Ils veulent que cette relation entre les deux pays fleurisse, qu'il y ait des échanges réguliers entre les deux pays. Ils veulent que des artistes cubains, des danseurs, des chanteurs viennent sur le territoire américain, et ce qu'ils n'ont pas fait depuis de nombreuses années. Et puis, c'est quelque chose qui est en train de s'initier. Et nombre de ces Cubains américains, ces jeunes, sont très fiers de leurs héritages, mais ils veulent rétablir cette relation avec leur héritage cubain.
Michael Putney est présentateur, lui aussi, de WPLG.
Au final, il me semble que cette visite du président à Cuba ne deviendra une chose palpable que lorsque l'on aura les images de cette visite à Cuba. Avec qui il va déjeuner, avec qui il va parler, ce qu'il va dire. Lorsqu'il sera sur cette île. Eh bien, tous ces événements, tous ces éléments auront un impact important. Et quel sera l'impact? Eh bien, tout dépend de ces images, de ce que nous verrons pendant ces 48 heures. 48 heures qu'il passera dans la République.
Peut-être une question plus personnelle, vous êtes vous-même d'origine cubaine. Comment est-ce que vous ressentez cette visite d'un président américain sur l'île, à La Havane, visite qui n'a jamais eu lieu de votre vivant?
We are living historic times.
Les temps sont historiques. Avoir cette possibilité d'être témoin et de voir l'histoire en mouvement, d'y voir l'histoire qui se fait, qui se fabrique, à mon sens, c'est une chance que je ne croyais même pas possible de mon vivant.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
That's what we do here. That's who we are. That's how we will win. That's the America.
France Culture, 19h15, c'était Regard croisé sur Cuba, un reportage de Soft Power réalisé à La Havane et à Miami fin février, début mars pour France Culture, montage Perret Legras et Olivier Guérin, traduction Paloma Goulmeau, traduction faite, réalisée en direct. Marjorie Paillon, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous allons maintenant nous consacrer essentiellement aux primaires américaines, aux primaires à la fois républicaines et démocrates, avec une série de dates clés qui vont avoir lieu ce mardi en Floride, dans l'Illinois, dans le Missouri, en Caroline du Nord et dans l'Ohio. Mais peut-être avant de détailler, notamment avec notre correspondant permanent aux États-Unis, Frédéric Carbone, qui se trouve en Floride ce dimanche après-midi, on pourrait peut-être revenir aux caractéristiques un peu générales de cette campagne des primaires. Un Donald Trump, candidat républicain, homme de médias, qui d'ailleurs maltraite les médias. Bernie Sanders, à la gauche du Parti démocrate, avec le soutien derrière lui de la génération Millennium, et la machine de communication Hillary Clinton.
Oui, absolument. C'est vrai qu'au tout début de cette élection, on avait l'impression qu'on allait assister au match des héritiers, finalement. Jeb Bush pour le camp républicain contre Hillary Clinton, avec une voie toute tracée vers la nomination démocrate. Et finalement, cette campagne nous a appris beaucoup de choses. D'abord, d'une part, que les électeurs américains sont en colère, qu'ils ont envie de faire sortir de cette élection des candidats qui, au départ, n'avait pas forcément vocation à y rester aussi longtemps, Donald Trump de côté, Bernie Sanders de l'autre. Trump, c'est vrai que ce qui est assez symptomatique avec lui, c'est que finalement, c'est un peu le monstre de Frankenstein qui est en train de manger le Parti républicain. C'est la créature qui se retourne derrière son créateur, ou contre son créateur, si j'ose dire. C'est cet homme de médias, souvenez-vous, en effet, un milliardaire qui, finalement, devient une bête de télévision dès la fin des années 90. Il est un peu nourri, pétri de cette culture populaire des 90s. C'est le copropriétaire de Miss Univers, par exemple, qui est diffusé sur NBC depuis 2003. C'est évidemment l'emblématique présentateur de The Apprentice de 2004 à 2015. Et sa phrase fétiche dans ce show de télé-réalité où il est censé...
You're fired. Vous êtes viré.
Et aujourd'hui, c'est typiquement la question que la phrase d'ailleurs que le GOP voudrait pouvoir lui retourner lors de la convention
républicaine. Le Parti républicain.
Ouais. Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a finalement Donald Trump qui a réussi à transformer cette campagne des primaires en véritable show de télé-réalité, qui s'en sort justement par sa popularité et par ses millions. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, notamment finalement, son budget de campagne est si bien mené, c'est qu'il n'a pas besoin de faire quelques dépenses publicitaires que ce soit. Les médias s'en occupent pour lui directement. Il a fait la une de ce qu'on appelle le Media News Cycle, c'est-à-dire que depuis le début de ses primaires, finalement, les médias parlent de lui. Il n'a pas besoin, encore une fois, d'aller les chercher outre mesure. Par contre, c'est une créature de médias qui se retourne, comme vous le disiez tout à l'heure, contre les médias eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque début de meeting en ce moment, le grand jeu de Donald Trump, c'est de pointer les journalistes dans la salle et de dire « Regardez, c'est à cause d'eux qu'on en est là ». C'est eux qui ne mettent pas les bons sujets sur la table. Et moi, je vais vous montrer comment on devient un bon président qui fait de l'Amérique, qui redonne à l'Amérique sa grandeur perdue. Make America great again. C'est vraiment le slogan de Donald Trump. Bon, ça, c'est vraiment le candidat qui sort du lot côté républicain et qui, encore une fois, est en train de faire imploser le parti. Et on verra comment ça va jouer, notamment lors de la convention de cet été. Côté démocrate, le candidat auquel on ne s'attendait pas, c'est Bernie Sanders. Et Bernie Sanders, ce qui est formidable dans cette campagne, c'est que finalement, il arrive à mobiliser sur sa candidature, en effet, cette génération millennials. C'est-à-dire que les jeunes démocrates, les jeunes électeurs démocrates, alors évidemment, c'est une frange de cette sociologie électorale qui est extrêmement éduquée, mais c'est aussi cette génération qui, à un moment donné, a fait partie des cortèges d'Occupy Wall Street, de ces 99% qui se sont retournés contre le 1% de l'élite extrêmement riche américaine et aussi d'une génération qui est pétrie de questionnements quant aux libertés en ligne. C'est la génération aussi post-Snowden, post-NSA qui a envie à un moment donné de faire entendre sa voix et de remettre à l'ordre du jour et au goût du jour le socialisme sans que ce soit un gros mot aux États-Unis. Et ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui Bernie Sanders, s'il engrange encore des victoires dans les primaire démocrate, n'a pas vocation, ou en tout cas n'aura pas suffisamment de délégués pour pouvoir l'emporter par rapport à Hillary Clinton. Finalement, c'est un candidat qui aura infléchi tout au long de cette campagne sur le programme d'Hillary Clinton, et ça c'est intéressant, parce que justement, on a une Hillary qui, elle, n'est pas forcément extrêmement populaire aux États-Unis. Encore une fois, on la voit comme une héritière, on la voit comme... Oui, la First Lady qu'elle a toujours été, oui, une élue, mais une élue finalement très new-yorkaise, elle était sénatrice, encore une fois... de cet état des États-Unis. Donc elle est un petit peu à part, mais elle a su dès le départ peut-être mieux gérer, mieux mener cette campagne, en tout cas c'est d'un point de vue de la communication d'abord, parce qu'elle a déjà une campagne primaire dans les pattes, si j'ose dire, hein. C'était face à Barack
Obama.
Elle a été ministre des Affaires étrangères, elle sait ce que
première
ça veut dire.
Première dame.
Et surtout,
pour
elle
demander.
Ne se serait pas présentée à cette nomination si elle n'avait pas eu à peu près 200% d'assurance de l'emporter. Elle se souvient encore amèrement de la défaite cuisante que lui a infligée Barack Obama pour la course à la nomination démocrate en 2007 et 2008. Donc, du coup, elle a dû infléchir, changer, travailler sur son image, se présenter dès le début de sa campagne en petite mère du peuple, à l'écoute des autres. Et puis surtout, c'est la candidate, oui, qui récupère les voix de la Silicon Valley qui était vouée à Barack Obama avant, notamment parce que ce qui préoccupe la vallée, c'est des questions de neutralité du net, d'éducation et surtout, surtout d'immigration.
Alors je vous propose de l'écouter, Hillary Clinton. C'est une vidéo qui a été tournée lors d'une rencontre toute simple, presque je dirais normale, de campagne comme tant d'autres. Hillary Clinton est là et une jeune fille se met à parler de ses parents qui vont être expulsés. Écoutez bien, Hillary Clinton réagit. Elle réagit d'une manière extrêmement efficace. Elle va appeler cette jeune fille, lui dire « Come here, baby, viens à côté de moi ». Et elle va faire un petit discours sur la question de l'expulsion des étrangers, qui est évidemment une réponse à Donald Trump. Et cette vidéo a eu tellement de succès qu'elle est devenue, elle a été reprise par Hillary Clinton et son équipe de campagne comme vidéo officielle de la campagne des primaires, notamment dans certains États. Hillary Clinton.
Mes parents ont reçu un avis d'expulsion du pays et j'ai peur de cette expulsion. Viens ici, ma petite chérie, viens. Je vais faire tout ce que je peux, tout ce qui est possible pour que tu n'aies pas peur. Tu n'auras pas à te préoccuper de ce qui peut arriver à tes parents. Vraiment, j'ai l'impression que tu as été extrêmement courageuse. Il faut que tu restes courageuse pour eux, car ils veulent que tu sois heureuse, que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu t'inquiètes trop. C'est à moi de m'inquiéter. Je m'occuperai de tout, d'accord? Tu es d'accord avec moi? C'est un marché. Je m'occuperai de tout. Je ferai tout mon possible.
Hillary Clinton dans cette vidéo donc de campagne devenue virale, notamment sur Internet. Nous partons maintenant pour la Floride, où se dérouleront mardi des primaires très attendues. Ce sera le cas aussi en Illinois, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, dans le Missouri. 5 primaires décisives pour le Parti démocrate, bien sûr, où l'enjeu est de départager peut-être, je dirais définitivement, Bernie Sanders et Hillary Clinton, et plus encore pour le Parti républicain, où Donald Trump pourrait asseoir plus ou moins définitivement son leadership face à ses deux rivaux, deux principaux rivaux, Ted Cruz du Texas et Marco Rubio, cubain-américain, sénateur justement de Floride. Avec nous par téléphone en direct de Floride, Frédéric Carbone, correspondant permanent de Radio France aux États-Unis. Bonsoir, bonjour pour vous Frédéric. Quels sont selon vous les enjeux de ces 5 primaires de mardi et notamment celles de Floride?
Écoutez, si on regarde du côté républicain, la Floride est un état extrêmement important parce que mardi, on change un peu les règles côté républicain. Celui qui gagne remporte tous les délégués. Et la Floride, c'est plus de 100 délégués. Donc la Floride est extrêmement important parce que Marco Rubio est le sénateur de Floride. Donc ça veut dire que si Donald Trump gagne ici, quasiment Marco Rubio est hors course. Pareil pour l'Ohio, là aussi, le gagnant refle tout. L'Ohio, près de 100 délégués. Et là, c'est John Kasich, qui est un autre rival de Trump, qui est le gouverneur de cet État. Donc même donne, si Donald Trump l'emporte, ça fait deux rivaux dont il est quasiment complètement débarrassé. Côté démocrate, c'est pas la Floride qu'on regardera le plus. Ce sont les États du Midwest. Ohio, Illinois et Missouri. Et on verra si Bernie Sanders fait la même chose que dans le Michigan la semaine dernière. C'est-à-dire arrive à gagner le vote col bleu face à Hillary Clinton. Et votre invité le disait, Bernie Sanders ne sera pas sans doute le candidat démocrate à cette présidentielle, mais s'il arrive à gagner dans ces États, il pourra durer encore plus longtemps et porter son message encore plus longtemps.
Une question, Frédéric Carbone, sur le vote latino, qui aura un impact décisif dans de nombreux États, mais notamment sur le vote de Floride.
Oui, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur le côté démocrate. Hillary Clinton, vous l'avez compris, on a entendu cette vidéo, est très très populaire, très majoritaire dans cet électorat latino. C'est pour ça qu'elle remportera la Floride sans doute assez largement. Côté républicain, très important, c'est 1 million environ de personnes, les Cubains autour de Miami. Pour qui vont-ils voter? Il y aura un vote anti-Trump très fort, c'est probable. Sera-t-il suffisant pour faire basculer en faveur de Marco Rubio? Probablement pas, parce que ce vote, il va se diviser aussi entre les deux Cubains-Américains, Ted Cruz et Marco Rubio, qui, il faut signaler, ne sont pas très populaires dans l'électorat latino de manière générale, parce qu'ils ont des positions très dures sur la question de l'immigration.
That have gathered in and around the arena, tonight's rally will be postponed until another day. Thank you very much for your attendance, and please go in peace.
Oui, à l'instant, on entendait les militants lors du meeting annulé de Donald Trump vendredi soir à Chicago, qui, et on les entendait aussi s'insulter, les uns au cri de raciste dehors et les autres avec pour slogan « Construisons le mur », sous-entendu le mur très long et très haut sur la frontière mexicaine, celui que Donald Trump veut construire. Car Frédéric Carbone, la campagne des primaires américaines devient très tendue, notamment donc à Chicago vendredi soir, mais encore hier soir à Kansas City, des primaires qui sont non seulement clivantes, mais désormais également violentes.
Oui, avec des scènes sans doute dans la vie politique américaine, vie électorale qu'on n'avait pas vue depuis les années 60. Ici, c'était très violent à Chicago. Des milliers de manifestants anti-Donald Trump, Trump qui décide d'annuler ce meeting. À Kansas City, vous le disiez, hier, pareil, Trump a interrompu des dizaines de fois. Et Donald Trump qui jette l'huile sur le feu, qui parle de manifestants qui il donnerait volontiers des coups de poing, qui dit que ça le galvanise, qui joue la victime aussi, forcément, en disant, ben voilà, on m'empêche de m'exprimer. Tout ça crée un climat extrêmement malsain dans ces primaires américaines et on ne sait vraiment pas jusqu'où ça va aller.
Pour terminer, Frédéric Carbone, correspondant permanent de Radio France aux États-Unis, vous êtes en direct de Floride. Un mot sur le rôle des médias, une campagne Trump qui se passe très largement sur Twitter.
Oui, sur Twitter, à la télévision, là vous en parliez il y a quelques minutes, évidemment il est omniprésent. Et sur Twitter, il compte, Donald Trump, qui compte ses soutiens sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, où il en a des millions, sur Twitter, où il en a près de 7 millions. Et Twitter, c'est son mode d'expression favori. Vous savez, Trump, c'est des mots simples, des mots courts, donc ça lui va très bien, sans quarantine. Le dernier tweet qu'il a envoyé, un des derniers par exemple, c'est pour menacer Bernie Sanders, pour lui dire, eh bien, vos militants viennent perturber mes meetings, méfiez-vous, moi je vais vous envoyer les miens. C'est intéressant ce que dit Donald Trump pour parler des gens qui votent pour lui. Il dit pas mes électeurs, il dit my people, mes gens. Comme si c'était, après avoir été des électeurs, un bouclier pour lui. C'est presque maintenant une armée en marche à ses côtés. C'est comme ça qu'il faut voir ce qui se passe autour de Donald Trump en ce moment.
Une armée en marche à ses côtés. Merci Frédéric Carbone, merci infiniment. Correspondant Radio France qui était en direct de Floride.
Cowardice, are you serious? Apologies for freedom, I can't handle this. When freedom rings, answer the call. On your feet, stand up tall. Freedom's on our shoulders, USA. Enemies of freedom, face the music. Come on, boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great.
Alors l'instant, l'un des hymnes de campagne justement, hymne de campagne du candidat Donald Trump, interprété par des jeunes filles ici dans un meeting de Floride, c'était en janvier dernier. Hymne original, Marjorie Paillon.
Très original, et pour cause, en fait, Donald Trump jusqu'à présent utilisait d'autres bandes-son dans ses meetings, notamment celle d'Adèle, Rolling in the Deep, et la chanteuse britannique a totalement interdit à Donald Trump d'utiliser ses chansons, mais il est coutumier du fait, hein, parce que juste avant Adèle, il utilisait Neil Young avec Rockin' in the Free World, ou encore du REM, It's the World as I Know It. Évidemment, ça n'a pas plu du tout à ces artistes-là qui ne veulent être associés ni d'Ève ni d'Adam à Donald Trump.
Et alors, par contre, d'autres artistes nombreux commencent à soutenir. Alors, ils l'ont fait un peu pour Bernie Sanders, mais là, désormais, c'est l'arme lourde, le soutien massif qui commence pour Hillary Clinton,
oui.
En Californie notamment.
Voilà, il faut toujours aller regarder du côté de la Californie, notamment avec ces démocrates-là. Il y a des actrices qui viennent de publier en ligne une vidéo où elles affirment leur soutien à Hillary Clinton, où elles s'engagent. Vous savez, c'est ces fameux moments du endorsement. C'est très important, ça, dans un timing de campagne, notamment de course à la nomination. C'est ce moment où des grands noms, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient hommes politiques ou femmes politiques, qu'ils soient artistes, vont porter leur voix auprès d'un candidat, s'engager. Et en l'occurrence, pour Hillary Clinton, ce sont des actrices comme Kerry Washington, par exemple, qui le font en disant « il faut voter pour une femme, il faut voter pour surtout défendre ses valeurs ». Et encore une fois, on va reparler des questions d'immigration, des questions de neutralité du net, des questions aussi d'éducation, des valeurs auxquelles il va falloir s'attacher, des valeurs de raison finalement, plutôt que des valeurs de choix, mais qui permettent justement à ces artistes-là de porter encore une fois leur engagement sur un candidat ou une candidate par rapport à d'autres.
Il est l'un des plus connus, des principaux traducteurs du français aux États-Unis, notamment le traducteur de Tocqueville, chercheur associé à l'université d'Harvard, également écrivain à ses heures perdues. Arthur Goldamer est avec nous par téléphone en direct. Bonsoir Arthur Goldamer.
Bonsoir Frédéric.
Vous êtes en direct de Boston aux États-Unis. Comment est-ce que, pour analyser ce qui est en train de se passer, comment le paysage médiatique a-t-il évolué selon vous au cours de cette campagne?
Alors, à mon avis, le fait le plus marquant, c'est sans doute le déclin de l'importance de la publicité traditionnelle payante au petit écran. Dans une certaine mesure, les médias gratuits, ce qu'on appelle ici les free media, ont remplacé la télévision. C'est que la pub traditionnelle ne fonctionne plus. Elle a perdu de son efficacité. Les téléspectateurs quittent le petit écran pour chercher une bière à chaque fois que passe une pub payée. Et donc, le candidat avisé cherche à se forger une présence dans cette autre sphère des free media, pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux câblés, les journaux Internet.
Mais ça veut dire, d'une certaine manière, que l'avantage de l'argent, du coup, est moins important, celui qui a le plus d'argent. Ça joue, mais peut-être un peu moins qu'avant?
Oui, tout à fait, c'est vrai, parce que on peut dépenser moins et on peut aussi cibler les mêmes messages que passent déjà sur les réseaux sociaux dans les pubs. Donc les pubs qu'on paye sont plus efficaces qu'auparavant.
Qu'est-ce qu'on peut dire des débats télévisés qui restent malgré tout importants? Il y en a de très très nombreux aux États-Unis, c'est pas comme en France où il y a essentiellement le grand débat final. Là, il y en a presque tous les soirs entre républicains, par État, par média, un dédié aux hispaniques et autres. Que peut-on dire de ces débats télévisés?
Oui, en effet, la multiplication du nombre des débats a complètement changé leur fonctionnement. Côté républicain, vu le nombre de candidats, 15 au début, réduit désormais à 5, un vrai débat est impossible. Et donc, cette situation favorise la candidate qui est agressif, qui maîtrise les codes de la télévision, et c'est-à-dire, bien sûr, Donald Trump. Ça va dans son sens.
Côté démocrate, avec juste 3 et maintenant 2 candidats, les débats seraient plus authentiques, vous voudriez dire?
Oui, tout à fait. Et grâce à YouTube, on n'est pas obligé, côté téléspectateur, de s'infliger 3 heures de débat 3 fois par semaine. Tous les moments forts et coups bas sont relayés par les réseaux sociaux. Et donc, ça fonctionne comme ça.
Voilà, donc on réduit donc l'argumentation politique à une série de petites phrases qui sont sur YouTube et donc on écoute juste 3 minutes au lieu d'avoir tous les débats. Merci infiniment Arthur Goldamer pour ce décryptage en direct depuis Boston aux États-Unis.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons les primaires numériques américaines avec 2 spécialistes des campagnes démocrates, Joe Trippi et Joe Rospars. Le premier a été l'artisan de la campagne d'Howard Dean en 2004, très prémonitoire. Il en a tiré un livre, The Revolution Will Not Be Televised, qui fut, on s'en souvient, une sorte de bible pour tous les spécialistes de stratégie politique numérique. Quant à Joe Rospars, il dirige l'agence Blue State Digital, spécialisée dans les campagnes numériques démocrates. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons interviewé hier soir par téléphone.
Je m'appelle Joe Rospars et je suis le fondateur de Blue State Digital et j'ai été l'ancien directeur de stratégie digitale de la campagne de Barack Obama en 2008 et en 2004.
Joe Rospars, vous avez fait plusieurs campagnes, à commencer par celle d'Howard Dean il y a maintenant plusieurs années, puis celle de Barack Obama. En quoi la campagne actuelle, notamment du point de vue des primaires, est-elle différente de ces autres campagnes?
Je crois que la principale différence dans cette campagne est la façon dont tout se passe dans les réseaux sociaux. Vous voyez que les campagnes se déroulent d'une façon totalement différente. La communication se fait pour mobiliser les supporters et les indécis à travers ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est passé de la télévision à la presse à ces réseaux. Et c'est vrai qu'il y a une interaction entre les voteurs et les médias. Et ceci n'était pas...
Il y a plusieurs candidats très actifs. Tous le sont, mais certains le sont plus que d'autres sur les réseaux sociaux. Commençons peut-être par Sanders, Bernie Sanders. Comment est-ce que vous analysez son succès finalement numérique ?
Il faut dire que Bernie Sanders a réalisé un travail tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'il est parti d'une organisation très, très réduite. Il a utilisé tout ce qui était numérique pour pouvoir réunir plus de soutien, plus de gens autour de lui. C'est-à-dire qu'il a lancé une campagne avec beaucoup de gens qui n'avaient peut-être pas les ressources pour pouvoir l'aider. Eh bien, ces gens ont pu construire les outils, les équipes qui étaient nécessaires et toute la structure qui est nécessaire pour pouvoir se lancer une campagne un peu parallèle à celle d'Obama ou de Dean, de façon à pouvoir devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus rapidement. Et c'est quelque chose qui est parti du bas vers le haut, notamment la structure, en termes d'équipe, une équipe très petite, mais qui s'est réunie très vite, qui a travaillé très, très vite. Et je crois qu'il n'y a pas eu de planification qui a pris du temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement, assez improvisé. Et je trouve que c'est très impressionnant à voir.
Si on compare avec les moyens d'Hillary Clinton, considérables, la machine Clinton est-elle aussi efficace ?
Alors, en ce qui concerne la campagne d'Hillary Clinton, des gens très intelligents l'entourent. Ce sont des gens qui savent très bien utiliser les technologies. Et c'est vrai qu'elle a très bien utilisé la base du parti. Mais c'est vrai que cette base, dans son grande majorité, a préféré travailler avec Bernie. Mais c'est vrai qu'elle a maximisé tout ce qu'elle pouvait. C'est vrai qu'elle a très bien travaillé sur la façon dont elle récupère les votes. Et ça se voit très bien à travers les primaires, la façon dont elle a mobilisé les gens, la façon dont elle a mis en place cette structure qui lui permet de remporter de nombreux votes. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas par chance qu'elle a pu obtenir ça. Et la façon dont elle reçoit tous ses appuis, tous ses soutiens, on voit très bien où ils vont, et c'est très efficace, et c'est très productif, en tout cas, ce travail. Et les fonds sont très bien utilisés aussi. Et il est clair qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de la base, notamment pour Bernie, notamment dans ce qui concerne la collecte des fonds.
Si on regarde le fonctionnement d'Hillary Clinton, on s'aperçoit qu'elle a créé un blog qui s'appelle The Feed, où des journalistes à temps complet publient des textes, des gifs, des images, des hashtags pour nourrir les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été efficace ?
Oui, c'est une manière très intelligente de créer une chaîne pour que les gens puissent suivre et de très près la campagne. La communication qui se fait à travers les réseaux sociaux est bien meilleure que celle qui passe par les publicités et la presse. C'est-à-dire que de plus en plus de gens commencent à se tourner vers le candidat. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils suivent une campagne. Et c'est peut-être la première fois qu'ils vont voter aussi.
Pour terminer, si on compare maintenant la machine Hillary Clinton du point de vue numérique, campagne numérique, et celle de Donald Trump, son principal rival républicain, comment est-ce que vous voyez les différences entre ces deux candidats qui sont en tête des sondages ?
La campagne de Trump, vraiment, s'est servie un peu des médias. Il y a eu beaucoup de publicité. Et puis, je dirais surtout qu'il a cette capacité de contrôler les médias à travers ses actions, à travers les Twitter, les nombreux Twitter qu'il rédige et qu'il envoie. Et c'est vrai qu'il a aussi ses sociétés qui l'aident. C'est une approche totalement différente. Les deux campagnes n'ont rien à voir. Hillary, il y a vraiment tout un appareil derrière, un appareil de campagne, toute une structure, alors que l'équipe de Trump est beaucoup plus réduite et tout repose beaucoup plus sur lui. Et c'est lui qui se charge de la communication.
Pour conclure, on pourrait dire que Donald Trump construit sa marque alors qu'Hillary Clinton construit davantage une équipe avec des actions pour agir.
Alors,
dans le meilleur des cas, pour notre pays, ce serait que Donald Trump soit simplement en train d'essayer de développer sa marque, hein, et qu'il ne soit là que pour son propre profit, et qu'il ne nourrisse que son ego. Mais c'est plus que ça, si finalement les commentaires qu'il fait, les positions qu'il défend, nous entrons dans une période extrêmement compliquée et difficile pour notre pays.
Joe Rospar, à l'instant, il dirige l'agence Blue State Digital, spécialisée dans les campagnes numériques démocrates, interviewée par téléphone depuis les États-Unis.
I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. I'll show you that in a second.
Voilà, la phrase célèbre déjà de Donald Trump. Il n'utilise pas l'argent des autres parce qu'il est vraiment, vraiment riche. Joe Trippi a été l'artisan de la campagne de Warden en 2004. Il en a tiré un livre, The Revolution Will Not Be Televised. Il est avec nous par téléphone en direct de Floride. Un mot, Marjorie Paillon, sur le rôle décisif de Joe Trippi dans les campagnes numériques.
Ah ben, Joe Trippi, ça a surtout été en effet le premier directeur de campagne de Warden en 2004. Et Warden, c'est le candidat poussé par Joe Trippi qui a été vraiment le premier à utiliser le numérique en tant que tel, en tant qu'outil vraiment de campagne.
Bien avant Barack Obama.
L'idée à l'époque qui restait toujours prégnante, c'est de se dire qu'avant tout, un site internet, c'est le vaisseau amiral pour lever des fonds. C'est la première raison pour laquelle on essaie d'avoir des ambassadeurs de campagne, on essaie de faire participer justement avant que ces électeurs deviennent des électeurs et concrétisent leur engagement dans les urnes, c'est avant tout lever de l'argent. Et donc c'est pour ça que le numérique a pris une importance aussi phénoménale, j'allais faire une magnifique redondance, aussi importante, dans les dispositifs de campagne. C'est parce que l'arme première, lever de l'argent, les transformer ensuite en ambassadeurs de campagne dans la vie réelle et puis le concrétiser, on voit bien évidemment.
Joe Trippi est en direct par téléphone depuis la Floride. Bonsoir Joe Trippi. Hello, hi.
Hello, how are you?
Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Joe, qu'est-ce qui a changé de votre point de vue depuis justement The Revolution Will Not Be Televised et aujourd'hui? C'est vrai que la stratégie numérique a énormément évolué. On pourrait dire quoi? Que 2008 c'était la révolution Facebookée, puis 2012 la révolution tweetée, 2016 ce serait quoi?
So everything has changed a lot since you published your book, and you will say that first was the Facebook revolution, then the Twitter revolution. What would you qualify this new revolution we're going through? In 2016.
It's definitely moving to mobile.
Je dirais que l'on passe maintenant au téléphone portable.
Being more important this time.
Et c'est beaucoup plus important à l'heure actuelle.
Is taking off because, I mean,
et pourquoi cela décolle? Une des raisons, c'est simplement parce que c'est très facile de communiquer ainsi. C'est vrai qu'il utilise très bien Twitter. Et puis, ça passe de tellement de téléphone en téléphone que cela va très très vite. Et je crois qu'il le fait bien mieux que n'importe quel autre candidat et quel que soit le parti.
Alors, le point déterminant aussi cette année, c'est vraiment l'utilisation des données, de la data. Pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu de campagne plus que tout?
The use of data, that's the big point of the year. Why is it so important nowadays and in this campaign? Comme je vous le disais, la télévision perd du terrain, est de moins en moins puissante. Et c'est pour ça que je disais que la révolution ne pouvait pas passer par la télévision dans mon ancien livre. Les candidats, à l'heure actuelle, que ce soit en France ou aux États-Unis, continuent d'utiliser la télévision, certes. Mais le pouvoir que représente la télévision, sa capacité à convaincre les électeurs, n'est plus le même. A disparu presque. Et c'est vrai que ce téléphone portable permet à n'importe quel citoyen de faire passer l'information sur un candidat ou avoir des millions de personnes en ligne, des gens que l'on peut toucher directement. Et ce sera sans avoir un présentateur, quelqu'un qui va leur expliquer quelque chose, leur dire ce qui va se passer. Donc Trump arrive à parler directement aux gens, face à face, et ne pas à travers la presse.
Justement, comment est-ce qu'un candidat qui a réussi à driver, à mener cette conversation, à l'engager avec ses électeurs, peut rester un président qui garde la main sur ce discours aussi direct avec ses concitoyens?
So, how a candidate who's been going through Twitter will be a president that will keep that, you know, this direct connection with the people, with the citizens?
C'est notamment un des problèmes qu'a rencontré Obama. Il avait une campagne qui était connectée directement aux gens, il y avait quelque chose de très proche, et il a perdu cette capacité lorsqu'il a été élu. Et je crois que c'est le problème à l'heure actuelle. Comment passer à l'étape suivante? Comment pouvoir maintenir cette connexion que l'on a créée, pas simplement au sein d'une campagne, mais après pouvoir que les gens puissent interagir comme les Français avec leur gouvernement et pas simplement avec un candidat au moment où il fait campagne.
Merci infiniment, Joe Trippi. Vous étiez en direct par téléphone depuis la Floride. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références pour notre alphabet numérique sur les réseaux sociaux. Au mot-clé Soft Power, vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, 19h45. Dernière partie de cette émission. Nous allons repartir aux États-Unis pour nous intéresser à une série de républicains, ce coup-ci, et notamment Alfred Sikes, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir, Alfred Sikes.
Hello.
Nous avons Alfred Sikes, voilà. Alors, Alfred Sikes a été conseiller de Ronald Reagan. Il fut surtout le président de la Federal Communication Commission, c'est-à-dire l'équivalent un peu du CSA et de l'ARCEP en France, c'est-à-dire le régulateur principal des communications aux États-Unis sous George Bush. Deux titres importants. Peut-être ma première question pour vous ce soir, Alfred Sikes, vous êtes un républicain. Comment est-ce qu'en tant que républicain, vous vivez cette campagne du côté républicain, notamment l'affrontement Donald Trump face à Ted Cruz pour une part et Marco Rubio, deux sénateurs du Texas et de Floride?
Hello. So my first question, since you're a Republican, will be how do you see, you know, the primary campaign with these candidates, Donald Trump on one side, Ted Cruz, Marco Rubio? How do you live that?
Well, first of all, you've left out the name of the person that I think.
Vous avez laissé de côté le nom de la personne qui, à mon sens, finira par remporter la candidature républicaine, qui sera John Casey, à mon avis, hein, qui au final sera celui qui sera nommé et qui l'emportera. Je dirais que la campagne, à l'heure actuelle, se polarise autour de certains candidats et finit par créer un certain nombre d'éléments négatifs. Les gens sont extrêmement frustrés. Ils ont d'ailleurs cette frustration déjà vis-à-vis de leurs politiciens, de ceux qui les représentent. Et cela ne fait que cristalliser une situation. Il y a le problème des immigrés qui est repris à plus soif. Et je crois que l'on joue sur cette frustration et sur ce sujet. Mais je voudrais maintenant revenir sur ce premier point. Je ne vois pas Trump remporter la candidature et la nomination.
Est-ce qu'il a été habile, est-ce qu'il a été efficace, en dépit de ce que vous pensez, Donald Trump?
Do you think that Trump, besides what you think about him, has been smart in the way he's doing his campaign?
No, I don't.
Because, non, pas du tout.
You know, you can,
parce
you can
que c'est vrai que vous pouvez obtenir de très bons résultats à très court terme, obtenir ce niveau de popularité, mais il faut être capable de pouvoir gouverner. Et il faut que quelqu'un et que les gens vous voient comme un président, comme quelqu'un qui puisse gérer un gouvernement. Et je ne crois pas que les gens voient en Trump quelqu'un qui pourra avoir ce rôle.
C'est sous Reagan qu'a été libéralisé le temps de parole qui était beaucoup plus régulé auparavant, donc sous votre administration, si on peut dire, lorsque vous dirigez l'agence qui s'est occupée de cette atténuation des régulations. Est-ce que ce n'était pas un problème et est-ce que ça n'a pas engendré, au fond, ces types de candidats comme Donald Trump?
It's when you were working for Reagan that the time of speech was not as much regulated as it did. As I mean, they stopped to regulate that the time of speech. And don't you think is that one of the reasons that we see what we see nowadays?
Well, yeah, we have a constitutional protection of free speech.
Alors, il y a le droit
à la liberté de parole qui est réglementée par la Constitution. Donc, c'est vrai que le gouvernement ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Et même les supporters peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Les gens en colère peuvent s'exprimer librement aux États-Unis. À la fin, ce qu'il faut simplement, c'est de se dire que les gens sont suffisamment responsables. Et je crois que les médias prendront leur part de responsabilité et d'une certaine façon, finalement, organiseront les débats d'une autre façon, pas celle qu'ils ont maintenant, de tourner vraiment tous les discours et tous les échanges autour des protagonistes et pas autour du contenu de ce qu'ils ont à défendre.
Merci infiniment à Al Six. Vous êtes ancien collaborateur de Ronald Reagan et président, ancien président de la Federal Communication Commission. C'était sous George Bush.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
That's what we do here. That's who we are. That's how we will win. That's the America.
Ken Oletta est le principal analyste des médias et de la communication aux États-Unis, grand reporter au New Yorker. Je lui ai demandé, dans une interview enregistrée cette nuit, comment il décrirait d'une part l'empire média de Donald Trump et sa campagne anti-média. Ken Oletta.
Well, he's run a campaign
Alors...
where most...
Trump, c'est vrai qu'il a géré la campagne d'une façon totalement inattendue, ce qui fait que nous avons prévu et nous avons dit qu'il ne survivrait pas. Ses discours étaient complètement ridicules, il continuait à dire des choses complètement ridicules et il continue à remporter les primaires. De la même façon, c'est vrai qu'en même temps qu'il remporte ses primaires et comme il est tellement nouveau et qu'il est tellement odieux, scandaleux, c'est vrai que la presse se tourne vers lui et lui donne beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de temps.
Pour vous, vous diriez que les médias ont donné trop d'importance à cet homme de médias ?
La question ne se pose même pas. Bien évidemment, la presse lui donne bien trop de temps. Et c'est totalement injuste. Si moi, j'étais un des candidats contre lui, je serais extrêmement énervé. Les médias ne sont pas du tout équitables et lui donnent bien plus de temps, bien plus de couverture. Mais pourquoi la presse lui donne tellement d'importance? C'est parce qu'il le traite comme si c'était un personnage de réalité.
Il n'y a pas aux États-Unis, depuis les nouvelles régulations de la Federal Communication Commission, de répartition équitable du temps de parole des candidats?
Non, il n'y a aucune réglementation qui vient à contrôler le temps imparti à chacun des candidats. C'est-à-dire que la presse peut faire exactement ce qu'il lui semble. Et puis, la presse vous expliquera que oui, c'est quelque chose qui les préoccupe, qu'ils veulent être très justes. Mais au final, ils ne le font pas. Et évidemment, ce n'est pas juste.
Aux deux extrêmes du spectre politique américain, Donald Trump et Bernie Sanders semblent mieux réussir que ce que les analystes et les commentateurs avaient pronostiqué. Est-ce pour des raisons similaires ?
Je pense qu'ils attirent les gens pour des raisons très similaires. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux des gens qui viennent complètement d'ailleurs, des outsiders, comme on dit. C'est vrai que Sanders est candidat pour les démocrates, mais il n'est pas démocrate, il n'appartient pas au parti, il est indépendant. Et c'est vrai qu'il vote avec les démocrates au Congrès, mais voilà. Et Trump est républicain depuis très peu. Auparavant, il était démocrate. Mais tous les deux sont des gens complètement extérieurs. Ils sont extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fâchés, ils sont en colère. Et c'est vrai qu'ils captent cette colère qu'on le retrouve dans le public.
Pour conclure, Ken Oletta, les deux candidats les plus probables à la présidentielle, Donald Trump donc et Hillary Clinton, sont tous les deux des figures très clivantes.
La faiblesse que l'on peut retrouver chez ces deux candidats, c'est qu'il y a bon nombre d'Américains, si l'on s'en tient au sondage, qui n'aiment aucun des deux candidats. À peu près 60%, deux tiers des Américains, si l'on s'en tient au sondage, n'aiment pas Donald Trump, ne voteront pas pour lui. Et si l'on regarde bien les résultats, il ne remporte que 30 à 40% des votes au sein des Républicains. Et c'est vrai que s'il y avait un seul candidat face à lui,
il perdrait. Et Hillary Clinton ne représente que 40%. Et 40% de ces Américains ne l'aiment pas. Et ceci veut dire qu'au final, cette course va être extrêmement disputée. Il peut y avoir d'énormes surprises qui apparaissent tout au long du chemin. Il y a de nombreux voteurs qui ne votent qui ne sont pas contents avec les candidats, qui ne leur plaisent pas. Alors peut-être qu'il y aura un troisième candidat qui pourrait l'emporter. Oui, mais il peut peut-être avoir un impact et peut-être que ce candidat pourra permettre d'élire soit Trump, soit Clinton.
Ken Oletta, grand reporter au New Yorker, en charge depuis de nombreuses années de la rubrique communication, médias et numériques, auteur de nombreux livres sur la communication. Sur 19h55, cette émission va pratiquement s'achever ce soir sur ces élections américaines. Peut-être un mot, Marjorie Paillon, au fond, pour conclure sur la Silicon Valley qui a été présente tout au long de cette émission. Une Silicon Valley qui a décidé ces derniers jours, là, maintenant réellement, elle aussi de passer à l'attaque. En faveur d'Hillary Clinton.
En faveur d'Hillary Clinton, mais surtout contre Donald Trump. En fait, c'est un peu le tout sauf Trump qui se joue de ce côté-là de la Californie.
Avec même un hashtag Never Trump extrêmement populaire.
Trump, avec, par exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui tweet, bon, ça date de décembre dernier, mais Send Donald to Space, en fait, il en a fait un hashtag, envoyer Donald Trump dans l'espace, quoi. Et à un moment donné, on voit que ce pouvoir politique et économique de la Silicon Valley est en train de prendre position. Tim Cook, Larry Page, Elon Musk et Sean Parker, les plus grandes stars de la Silicon Valley, encore une fois, se sont réunis en marge d'un forum entrepreneurial il y a quelques jours pour essayer de comprendre comment ils pouvaient, eux, se lier aussi pour stopper Donald Trump. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point, encore une fois, ce soft power est présent et va jouer un véritable rôle dans cette élection.
Voilà, on en reste là pour ce soir. On se quitte d'ailleurs avec Kygo. C'est un remix, il est norvégien, il a 24 ans. Son premier album n'est pas encore sorti, c'est malgré tout déjà une star. Il sera en tournée ce printemps un peu partout dans le monde. C'est un artiste de musique électro laid back, on pourrait dire de house music slow et même de chill out, hein, comme on dit. Un artiste d'abord célèbre pour ses remixes, dont ce célèbre Sexual Healing de Marvin Gaye. Il téléchargeait légalement de la musique sur internet quand il était jeune. Et bien maintenant, c'est un artiste lui-même, un artiste du streaming, un artiste du remix, star sans encore un seul album, un artiste Spotify finalement, plus d'un milliard de vues sur YouTube, omniprésent également sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, Théo Corbucci et David Lavaux. Merci infiniment à Marjorie Paillon pour son aide, tout particulièrement ce soir, et à Paloma Goulmo qui a traduit de l'anglais et de l'espagnol tous nos invités, et cela en direct et en simultané, c'est pas facile. Bravo. Dimanche prochain, nous serons au Salon du Livre. Vous pouvez assister à l'enregistrement de cette émission qui sera dédiée au futur de l'édition. Cette émission aura lieu à 16h exceptionnellement sur le stand de Radio France. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'Alphabet Numérique, sur le site franceculture.fr. À la régie ce soir, Bruno Gagnère-Fontanille. La réalisation était signée Olivier Guérin. Soft Power, une émission de Frédéric Martel. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. I got sick this morning, a sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing, the waves are rising.